communauté CBC Makepe Israël sous la direction de son pasteur Emmanuel Koum vous convie tous les mardis entre 20h30 et 21h30 à une réflexion sur la vie chrétienne aujourd'hui. Au rythme de Dieu, c'est les messages, prédications, enseignements, débats, conférences, interactivités, le tout arrosé par de la très bonne musique. Notez le rendez-vous mardi 20h30, 21h30. Venez et ensemble, marchons à la suite de Jésus.
Le savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains, pas à pas la main.
C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous êtes bien sur la 107.8, la fréquence de vie, la radio Vie Nouvelle, amis auditeurs, nous vous souhaitons la bienvenue à l'écoute de Au rythme de Dieu tous les mardis 20h30, 21h30. Mardi 16 mars 2010, alors qu'il est 3 minutes passées de 20h30. Nous vous souhaitons encore la bienvenue à l'écoute de cette émission qui vous accompagne chaque jour dans votre marche avec le Seigneur, qui vous exhorte, qui vous encourage, qui vous instruit également selon la parole de Dieu afin que vous soyez édifiés et prêts à toute bonne œuvre selon la Bible. Au rythme de Dieu, c'est une émission qui est préparée et présentée pour vous par la communauté Israël Makepe de la Cameroun Baptist Convention, la CBC Israël Makepe. Ce soir, la prise de son Emmanuel Sonfak sur ce plateau. Noé Ngachou, bonsoir Noé.
Et bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient à votre partage.
Merci Noé, nous tenons surtout à présenter nos excuses aux auditeurs qui certainement nous ont manqué mardi dernier pour des raisons indépendantes de notre volonté. En face du pasteur, en face de Noé, le pasteur Emmanuel Koum, bonsoir pasteur.
Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs, que le Seigneur vous bénisse ce soir, en notre compagnie.
Chers auditeurs, vous imaginez certainement que nous allons reprendre ce que nous avions prévu présenter mardi passé, à savoir le découragement, afin que véritablement, réellement, ce soir, le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur qui, chaque jour, renouvelle votre fidélité à l'écoute de cette émission et nous croyons que sa grâce vous accompagne chaque jour et abondamment. Nous vous invitons à prendre place, à vous installer et pendant que nous cheminons pendant ces 60 minutes en compagnie du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment.
Pendant que tu es dans la présence de Dieu ce soir, que ce lieu soit visité par sa sainte présence, que ton cœur soit visité par sa sainte présence, que ta vie soit inondée par sa sainte présence, que le vent de son esprit descende sur ta vie maintenant pour te ramener vers lui, pour te ramener dans une véritable intimité, dans une véritable communion avec lui. Parce que son désir c'est de marcher avec toi, son désir c'est de communier avec toi, son désir c'est de partager ton existence, qu'il pose sur toi des langues de feu et que ce soir ta vie soit transformée, ta vie soit renouvelée. Nous te bénissons Seigneur, nous t'exaltons, que ton onction descende sur nous en ce moment, pour chaque personne à l'écoute, pour chaque personne en train de te contempler ce soir. Seigneur, fais descendre sur chacun le feu de ta présence pour consumer en nous le péché, pour nous restaurer et pour nous amener à une plus grande intimité avec toi. Seigneur notre Dieu et notre Père, Nous prions afin que tu nous visites dans une plus grande communion avec, dans un plus grand attachement avec toi. Descends au milieu de nous en ce moment. Et que ta vie, Seigneur notre Dieu, jaillisse en abondance. Pose sur nous des langues de feu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que ton feu qui est manifeste, Seigneur notre Dieu, dans la vie, alors que nous sommes des sacrifices au devant de toi, comme tu l'as dit, Éternel notre Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Seigneur, nous nous déposons nous-mêmes à l'autel en ce moment, et que ton feu nous embrasse. Alléluia. Seigneur, nous te glorifions. Que toute ombre en nous soit chassée, que toute trace d'iniquité soit chassée de nous, et que ton amour abonde et déborde dans nos cœurs, au nom de Jésus. Alléluia.
Amen. Béni sois-tu, notre tendre Père, qui chaque jour encore et encore renouvelle en nous sa présence. Béni sois-tu, toi qui, à tout moment, Père éternel, a toujours un regard posé vers nous pour nous orienter, pour nous guider, Seigneur, vers le chemin, Seigneur de l'excellence. En ta présence. Merci Père éternel pour ta présence dans nos vies. Seigneur, merci parce que nous t'avons et c'est le plus important. Seigneur, merci parce que tu sièges en nous et c'est le plus important. Père, pour réellement apporter la satisfaction totale. Et que nous puissions ainsi produire, Père éternel, le fruit qui glorifie ton nom et qui témoigne de ta majesté, de ta gloire encore. Tu es venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette abondance de vie qui jaillit au travers de nous. Au travers de ceux qui espèrent en toi, au travers de ceux qui ont les yeux fixés vers toi à chaque moment, à chaque instant. Et ne se laissent point emporter, Seigneur, par quelques difficultés que ce soit. Oh Seigneur, sois glorifié.
Oui Seigneur, nous te rendons grâce. Nous croyons à ta présence au milieu de nous. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ceux qui sont abattus, découragés, afin que tu puisses les relever ce soir, Père. Seigneur, nous te louons et te proclamons, Seigneur, une fois encore ce soir dans nos vies, ô Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Notre reconnaissance va vers toi. Parce que ceux qui sont en toi se renouvellent comme l'aigle. Et prennent l'envol, Seigneur, comme l'aigle. Que ton nom soit exalté. Que ta présence nous inonde ce soir. Inonde.
Au nom de Jésus.
Aussitôt ceux qui nous suivent ce soir. Merci, Seigneur. Merci de prendre le contrôle. Merci d'être avec nous. Merci d'être béni au nom de Jésus. Amen.
Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Chers amis auditeurs, une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. À l'écoute de Au rythme de Dieu, c'est sur la fréquence de Villa 107.8. Nous bénissons le Seigneur qui, chaque jour, renouvelle envers nous sa fidélité et sa confiance. Ce soir, nous parlons du découragement. Nous parlons du découragement, ce sujet. Qui est d'autant intéressant pour nous que dans notre marche, nous avons besoin à chaque moment et à chaque instant d'être boostés d'une certaine manière afin de pouvoir avancer. Être boosté avec les yeux tournés vers Jésus-Christ et seulement. Mais malheureusement, nous nous rendons compte que ce n'est pas du tout le cas. Et ce qui pourrait expliquer cela, nous voyons autour de nous des personnes qui, une fois ayant entamé la marche, s'arrêtent. Prennent une pause ou alors abandonnent totalement le découragement dans notre marche avec le Seigneur. Noé, on peut rapidement dire que c'est récurrent, c'est fréquent hein, de rencontrer à un moment des gens qui soit perdent d'altitude ou alors perdent de la vitesse dans leur manière de faire ou dans leur relation avec le Seigneur.
Certainement. Le découragement vient de plusieurs facteurs. Certainement, on va en voir avec le pasteur comme tout à l'heure. Mm-hmm. Le découragement vient de plusieurs facteurs. Mm-hmm. Le découragement vient parfois de l'appui sur lequel on a bâti
on
sa
repose,
vie, sur lequel on se repose. Parce que parfois, on a bâti sa vie sur des certitudes humaines. Mm-hmm. Et quand ces certitudes-là s'écroulent, alors on entre forcément dans le découragement. Ou alors, comme on dit très souvent, les gens sont venus au Seigneur parce qu'ils avaient une certaine espérance. Mm-hmm. On leur a dit, venez, et si vous venez, riche, certainement vous serez riche, vous aurez un enfant, vous serez marié. Et puis après
malade.
Avoir attendu pendant un certain temps, un long mm-hmm. moment même, et qu'on commence à se poser des questions sur mais pourquoi est-ce que, bon voilà, je vois dans la vie des autres, ça se passe comme ça, dans ma propre vie, ça ne se passe pas comme ça. Alors, progressivement, les personnes commencent à se retirer mm-hmm. et finissent par abandonner, par se décourager, mm-hmm. parce que leur espérance n'a pas été récompensée. Mm-hmm. Donc, le découragement vient parfois de ces facteurs-là. Mm-hmm. Le découragement vient aussi à certains moments parce que nous avons, nous croyons nous-mêmes forts. C'est-à-dire que nous oublions que notre force est le Seigneur. Ça veut dire que la grâce, la joie du Seigneur fait notre force. Mais très souvent, nous avons bâti notre force sur nous-mêmes, sur nos relations, mm-hmm. sur notre personnalité,
notre
parce qu'on croit qu'on est quelque chose,
ouais.
alors qu'on n'est rien.
Mm-hmm.
Et puis, quand les choses commencent à aller mal, on panique
mm-hmm.
et on finit par se décourager parce que tout autre appui que le Seigneur est vain,
mm-hmm.
véritablement. Mm-hmm. Donc, le découragement a plusieurs sources. Et le découragement frappe beaucoup l'Église de Christ aujourd'hui. Beaucoup de personnes se découragent et finissent par abandonner. Vous allez les retrouver à l'extérieur. On dit, c'est quoi vous faites là? Nous, on a aussi fait ça. Et puis,
vous voulez montrer que vous êtes plus sain que qui.
Et c'est ces personnes découragées qui, à certains moments, découragent les autres de continuer, de persévérer dans le chemin de la foi.
Donc, pour résumer, le découragement peut être dû à des motivations, déjà à la base, des fondements qui ne sont pas du tout solidement.
De
ouais.
fausses motivations.
Et donc des facteurs, on peut dire internes, hein, liés à soi-même, mm-hmm. ou alors l'influence de l'extérieur.
Mm.
Et pasteur Koum, on ne serait pas surpris hein, de se rendre compte que même Jésus-Christ disait, dans les derniers temps, est-ce qu'on trouvera encore la foi? Et qu'on peut dire que le découragement, à la limite, la Bible en a parlé comme un facteur, ou alors un signe des derniers temps.
Oui, bien évidemment, à cause de la montée du péché, les gens qui se vendront les uns les autres,
mmh.
et puis les gens qui se trahiront les uns les autres, ça va créer beaucoup de douleur dans la maison de Dieu. Et puis les gens qui courront vers les dieux de ce monde,
mm-hmm.
parce que le Seigneur leur a envoyé un esprit d'égarement,
mm-hmm.
parce qu'ils aiment plutôt le mensonge que la vérité.
Mm-hmm.
Donc beaucoup de choses vont se passer qui vont amener les chrétiens à pouvoir abandonner leur foi,
mm-hmm.
parce qu'ils n'auront pas mis leur confiance en l'Éternel.
Donc le Noé... C'est vrai, c'est une certitude, une réalité, la Bible dit, hein, le découragement, l'abandon de la foi, ainsi de suite. Mais est-ce pour autant justifier quelque découragement que ce soit?
Non, je ne pense pas que, qu'il y ait un justificatif à un découragement. Alors, ne disons pas qu'on ne peut pas ressentir une certaine fatigue sur mmh. le chemin, mais arriver à sombrer dans le découragement... on ne devrait pas en arriver là.
Mm-hmm.
Parce que sans cesse, le Seigneur nous demande de prendre courage. C'est pour ça qu'il mm-hmm. a dit à Josué, mm-hmm. fortifie-toi mm-hmm. et prends courage.
Mm-hmm.
Parce que tu vas t'avancer dans une bataille qui n'est pas facile.
Mm-hmm.
Tu vas, parce que la vie chrétienne n'est pas une
n'est
chose
pas
assez aisée.
Mm-hmm.
Hein. Mais sur le chemin, le Seigneur nous a donné une parole qui nous permet de tenir.
Mm-hmm.
Il dit, fortifie-toi et prends courage.
Mm-hmm.
Ce n'est pas toi qui combats, c'est moi qui combats à ta
place.
Donc, cette parole d'assurance permet que quand je rencontre n'importe quel obstacle sur le chemin, je ne regarde pas à moi,
mm-hmm.
mais je regarde le Seigneur qui est capable de toutes choses.
Amen.
Amen. Ah oui, c'est vrai, comme disait Noé. Mais il faut reconnaître aussi que le découragement fait partie des sentiments humains normaux, hein, qui ont habité des grands hommes de Dieu. Même le Seigneur Jésus a été découragé. Dieu lui-même a été découragé par rapport à son peuple, comme on va le voir tout à l'heure. Mais seulement, comme nous allons le présenter, c'est le choix de ce qu'il faut faire après le découragement qui va donc amener les gens soit à sombrer, soit à continuer avec le Seigneur. Parce que ça fait quand même partie, à un moment on est découragé, on a donné des conseils mais ça n'a pas marché, on ne sait plus quoi faire et tout.
Vous m'avez précédé un peu dans ce que j'allais dire. Le plus important, hein, n'est pas le découragement en soi, mais comment est-ce que le découragement se gère. Voilà. On se rappelle l'histoire de Lazare, on se rappelle l'histoire de Pierre, qui, d'une manière ou d'une autre, en fait, l'un ou l'autre, ils ont trahi le Seigneur, mais qui ont eu une attitude différente l'un de l'autre et qui, avec des résultats évidemment différents. Donc le découragement, c'est vrai, hein, le pasteur l'a dit, même Dieu s'est découragé, et ce n'est pas une raison pour justifier le découragement, que c'est vrai, c'est naturel, c'est humain, à la limite, pas seulement humain, puisque Dieu en a été concerné à un moment. Mais le plus important, c'est de pouvoir, à partir d'un certain moment, hein, s'asseoir et dire où est-ce que j'ai posé mes repères et où est-ce que je vais à la fin. Quel a été mon objectif, ou comment est-ce que je dois pouvoir continuer. Nous bénissons le Seigneur qui ce soir certainement au travers des exemples que nous allons présenter par la bouche de la voix du pasteur Emmanuel Koum ce soir, nous donnera de voir quelles peuvent être les raisons du découragement, quelles peuvent en être également les conséquences et comment est-ce que quelques-uns dans ces exemples ont pu gérer ces découragements et sur quoi ils se sont appuyés pour pouvoir se relever, quels ont été les facteurs, soit internes ou externes, qui ont contribué à tout cela. Et nous, vous savons, à l'écoute, chers amis auditeurs, et espérons que réellement vous serez bénis pendant ces moments. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à ces émissions en appelant 77 96 29 29. 77 96 29 29, vous pouvez appeler et participer. Mais nous souhaitons, chers amis auditeurs, que vous le fassiez après le message. Parce qu'il y en a déjà qui se signalent au bout du fil. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et dans sa grâce. prends courage, n'abandonne pas. C'est l'interpellation de Olivier Choa au travers de ce terre musical. Vous êtes à l'écoute de Au rythme de Dieu, c'est sur la fréquence de vie. La radio Vie Nouvelle, à 107.8, 77.96, 29.9, c'est le code d'accès à cette émission, pendant laquelle nous parlons du découragement. Et très rapidement, je vais donner la parole au pasteur Manuel Koum.
Nous rendons grâce au Seigneur et merci Guy pour la parole. Nous rendons grâce au Seigneur pour vous tous qui nous suivent aujourd'hui. Comme disait Guy tout à l'heure, nous nous excusons pour la semaine dernière, l'électricité nous a fait défaut et on a coupé le courant dans cette zone. Nous voulons donc continuer à vous parler du découragement, qui est un sentiment humain, normal, qui habite les hommes. Et très, je pense que beaucoup en ont fait face et puis très souvent, on n'a pas su prendre de bon bout et puis on a totalement dévié pour sombrer dans tout ce qu'on peut appeler comme déviation, alcool, drogue et toutes ces choses qui nous ont plutôt amené à la perdition. Et ce soir, nous voulons vous montrer les chemins pour pouvoir sortir ou pour ne pas tomber dans le découragement déjà ou comment vous en sortir. Nous voulons lire d'abord dans 1 Roi au chapitre 19, versets 1 à 4.
Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. »
Et nous voyons ce grand serviteur de l'Éternel comme Élie, qui venait de faire un si grand prodige. Par sa prière, il a fait descendre le feu. Le Seigneur a envoyé le feu du ciel pour consumer eau, brebis, pierre et tout ce qui était là. Et qui, dans son histoire, a fait de grands exploits avec le Seigneur. Au simple mot de Jézabel, Élie est découragé. Il abandonne son ministère. Il abandonne tout pour pouvoir fuir le découragement. C'est un sentiment qui habite le plus souvent les leaders spirituels, comme nous voyons Élie, ou des personnes qui se sont fixées des objectifs à atteindre par rapport à leur vie, ou des personnes qui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, sont dans l'attente de quelque chose de la part de Dieu, ou même de quelque chose purement humain, ou qui sont en train d'atteindre un résultat par rapport à leur vie, leur famille, par rapport à quelque chose. Mais à force d'attendre et de ne voir que le négatif, le contraire de ce qu'on aurait aimé voir, amène souvent des gens à se lasser, à se décourager. Beaucoup se sont lassés de payer l'école à leurs enfants, qui au lieu d'aller étudier, passent le temps à manger les frais de pension et tout. Beaucoup se sont découragés à essayer d'aimer toujours cet homme ou cette femme qui n'a pour aucune autre réaction que d'apporter misère, douleur et souffrance. On a fait toutes les tentatives, même des réunions de famille, rien n'a donné. Et on ne fait que vivre la douleur, la souffrance dans la maison, découragé d'un père qui est démissionnaire et qui n'arrive pas à prendre soin des enfants de la maison. Et même que de tout l'amour qu'on peut donner, on reçoit en retour des chocs, des insultes, des douleurs et des déceptions. On a attendu, comme disait Noé tout à l'heure, que Dieu nous visite dans un domaine ou dans tel autre domaine. On a comme l'impression que non. Et puis à la fin, on a commencé à se fabriquer des béquilles, comme Abraham, pour pouvoir aider Dieu à réaliser le plan qu'il avait pour nous. Nous savons que la femme d'Abraham l'a aidé à fabriquer des béquilles pour la réalisation du plan de Dieu en lui donnant Agar. Et très souvent, les chrétiens ont fait ces choses qui les ont amenés plutôt à créer des problèmes dans leur propre vie. Donc je disais, le découragement est un sentiment normal, réel, qui habite très souvent des gens qui sont dans l'attente de quelque chose. Et la Bible nous enseigne dans le livre de Matthieu, chapitre 23, que le Seigneur Jésus lui-même a fini par pleurer sur Jérusalem après avoir été découragé. Matthieu 23, 37 à 39.
Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Nous voyons le Seigneur Jésus qui est face à Jérusalem. Tous les miracles qu'il a fait, tous les enseignements, tous les projets, tout ce que Dieu a fait pour eux, n'a eu pour résultat que provoquer la rébellion, l'endurcissement. Et Jésus, dans cette continuité, a démontré que tout ce qui est de l'amour pour un père, a démontré tout ce qui est de l'amour d'un père pour ses enfants. Mais il n'a reçu de Jérusalem rien d'autre que la haine, la jalousie, les crachats. Et lui-même savait dans quelle souffrance il devrait encore passer. C'est comme si Dieu avait jeté la dernière bouée de sauvetage pour cet Israël qu'il a beaucoup aimé, mais le résultat n'est pas ce résultat qu'il attendait. Et Christ pleurait sur la ville sainte. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Bien-aimés, ce sont ces cris de déception et de douleur que très souvent nous avons prononcés, que nous avons élevés au milieu de nos maisons, au milieu de nos églises, dans des endroits où nous nous sommes trouvés, où nous avons essayé d'apporter le meilleur de nous-mêmes, où nous avons demandé à Dieu le meilleur de tout pour pouvoir amener des gens à comprendre et à saisir le plan de Dieu pour eux. Mais plus on avance, plus on se rend compte que des gens ne font que s'enfoncer dans le mal. Dieu lui-même, parlant de cet Israël, a manifesté plusieurs fois le découragement pour ce peuple qui ne comprend rien. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, versets 1 à 4, la Bible nous dit...
Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais?
Que n'ai-je pas fait pour ma femme? Que n'ai-je pas fait pour mon mari? Que n'ai-je pas fait pour mes enfants? Je me suis battu pour eux. Que n'ai-je pas fait pour les frères dans l'église? J'ai prié, j'ai fait des dons, j'ai rendu visite. Mais le retour n'a pas été ce que j'avais espéré. Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins, a-t-elle produit de mauvais? Pourquoi, quand j'espérais que quand moi-même je serais malade, les frères viendraient me rendre visite, mais je ne vois personne? Et pourtant, c'est ce que je passe. Je passe mon temps à pouvoir le faire. Vous voyez, c'est des questions que nous nous posons. Et que Dieu lui-même aussi s'est posé par rapport à Israël. Après avoir guéri 12, Jésus a dit, mais il n'y a qu'un seul qui revient, dit merci. Hein, où sont les autres? Et de plus et encore, c'était un Samaritain. C'était même pas un Juif. Alors, vous comprenez comment à un moment de notre vie, face au retour que nous avons, au retour que nous n'attendons pas, au retour qu'on a espéré, on voit plutôt le contraire. On est véritablement découragé d'avoir cru au Seigneur, qui pouvait tout pour nous, comme il a dit lui-même et comme les frères nous ont exhortés. Mais apparemment, nous croyons que nous recevons plutôt le contraire. Et alors, c'est là où se joue le jeu maintenant. Quelle serait la suite? Parce que le découragement va donc nous ouvrir à deux attitudes. La première attitude, c'est soit qu'on s'arrête et on fuit son devoir, et on cesse d'agir,
soit qu'on continue jusqu'au bout, au-delà de tout. Et voilà les deux attitudes qui s'ouvrent devant le découragement. Parce que comme nous disions, le découragement, c'est un sentiment normal, c'est une attitude normale qui peut arriver à un moment de notre existence au regard de l'attente que nous avions et que nous ne recevons pas. Et là s'ouvrent donc deux attitudes. Et bien aimé, nous voulons véritablement vous amener à prendre la bonne attitude. La première attitude, c'est la fuite. Nous pouvons voir avec le test d'Élie que nous avons lu, que Élie était encore là physiquement. Élie était encore là présent dans Israël, mais moralement, spirituellement, psychologiquement, Élie n'existait plus. Élie avait cessé de fonctionner. Vous pouvez imaginer quelqu'un qu'on traite de porc dans la maison, une femme qui a toujours espéré que son mari regarderait encore ses actes, regarderait encore son amour, se pencherait encore à ses attitudes, mais qu'il ne reçoit des mots qui ne font que blesser son cœur, porc, ou bien tu ne sais rien faire, ou alors d'autres choses encore. À un moment, moralement, physiquement, on est dans la maison, physiquement, on est dans l'église, physiquement, on est avec les autres, moralement, spirituellement, psychologiquement, on ne fonctionne plus, on ne croit plus en rien. Ça me rappelle cette jeune fille qui rendait ce témoignage. Ses parents aimaient sa petite sœur plus qu'elle. Et tout ce qu'elle faisait était sujet aux critiques. Tout ce qu'elle faisait. Alors elle se dit, je vais essayer de gagner mes parents par mon travail à l'école. Mais elle se rend compte que sa petite sœur qui venait avec un bulletin nul était encouragée. Mais elle, immédiatement, quand on voit son bon bulletin, on trouvait toujours un moyen pour pouvoir critiquer, pour pouvoir insulter. Elle était tellement abattue, tellement découragée, que comme la plupart, on commence à penser, pour ceux qui n'ont pas cette force de continuer, à la drogue, à partir de la maison, on commence à penser à la cigarette, on commence à penser à l'alcool, on commence à parler à tout ce qui amène des gens à la déviation, parce qu'on ne fonctionne plus du tout. Moralement, spirituellement, psychologiquement. Et nous voyons Élie qui, couché sur son découragement, va dire, ça naît. Élie, donc couché, comme je disais, sur son découragement, finit par dire, je ne suis pas meilleur que mes pères. Ça naît assez maintenant, Éternel, prends mon âme. Découragé au point de demander la mort. Je ne sais pas si vous n'êtes pas arrivé à ce niveau. C'est ce niveau qui conduit à la dépression. C'est ce niveau qui conduit, à cause de toutes les douleurs internes, à une véritable déprime qui parfois amène des gens à se détruire eux-mêmes. Prends ma vie, prends mon âme, je ne suis pas meilleur. Et lui qui vient de faire descendre le feu du ciel, est en train de se voir se rapetir, est en train de se juger négatif à cause des simples mots de Jézabel, je ferai de ta vie ce que tu as fait. Vous voyez, Élie qui croyait que par l'œuvre de l'Éternel au travers de son ministère, Israël va croire, il se rend plutôt compte que même Acab qui a vu la gloire de l'Éternel descendre par le feu et qui a mené tout Israël a dit l'Éternel est Dieu, n'a pas mené. Cet Israël, non seulement croit, même Acab a changé de vie. Et il laisse sa femme continuer. Alors il est totalement découragé au point de demander la mort, au point de fuir, au point de partir, au point de ne plus fonctionner spirituellement. Vous connaissez le nombre de pasteurs qui ont démissionné? Vous connaissez le nombre de frères qui ont démissionné dans leur marche avec Dieu, qui ont fui? J'en connais plein. Qui à un moment ont laissé le ministère, ils ont abandonné le travail pour venir servir Dieu, plus tard abandonné le ministère pour repartir, travailler, en fait, rentrer dans leur vomissure, en réalité, parce qu'ils ne peuvent plus fonctionner dans la situation dans laquelle ils sont. Il y en a qui se sont mariés, remariés, remariés et remariés encore, tout simplement parce que ce sont des faibles. Quand ils se sont engagés avec leur femme ou avec leur mari, ils avaient pris des engagements. Mais en cours de route, ils se sont rendus compte que ça ne marche pas. Et comme ils n'avaient pas des ressources spirituelles suffisantes, des ressources, une ressource morale suffisante pour pouvoir avancer. En chemin, ils ont fini par dire, comme Élie, je ne suis pas le meilleur que tous les autres hommes. Si ces temps ont divorcé, je ne vois pas pourquoi moi je ne peux pas divorcer. Ça, c'est les défaitistes. Le grand Élie a eu cette défaite. Ceci est pour nous enseigner que cela peut aussi nous arriver. C'est pour ça qu'avec Jésus, que nous allons trouver des moyens pour ne pas tomber dans ce genre de situation. Parce que, bien aimé, on peut aussi avancer et continuer jusqu'au bout, comme Moïse, comme Josué. On se rappelle de Moïse qui était en train de donner les dernières instructions aux enfants d'Israël. Si vous servez l'Éternel, vous serez bénis. Mais après, Moïse s'est arrêté et leur a dit, je sais que vous ne le servirez pas. Je sais que vous allez pécher. Mais Moïse a pris toute sa force pour pouvoir leur donner cet encouragement, sachant bien évidemment, comme Josué le disait, choisissez qui vous voulez servir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que Josué savait qu'ils ne vont pas le servir. Mais Josué avait une responsabilité de prêcher, d'annoncer l'évangile, la parole de l'Éternel, quitte à eux de faire de cette parole ce qu'ils veulent. Voilà, on peut donc aller jusqu'au bout, continuer comme Jésus, qui venait de pleurer sur Jérusalem, mais qui accepte d'aller jusqu'à la croix, pour être fidèle à lui-même, pour être fidèle à son appel, pour être fidèle à son engagement qu'il a pris dans les cieux auprès du Père, pour venir mourir pour ces hommes qui ne comprendront rien malgré sa mort, qui continueront à tuer les prophètes, qui continueront à tuer les apôtres, qui continueront à tuer les enfants de Dieu et qui ne comprendront rien de la mort du Seigneur Jésus et estimeront plus tout simplement, je me rappelle, il y avait un rabbin quand j'étais à la faculté de théologie de Yaoundé, le rabbin de Jérusalem qui était en visite au Cameroun et qui est venu nous faire une conférence. Alors après, nous sommes sortis, nous lui posions des questions et il nous dit, vous les chrétiens, vous avez trois dieux. Nous, on a un seul Dieu. Et puis il dit, un juif, c'est un juif, hein. Même s'il est pécheur, il ira toujours au ciel. Et puis j'ai regardé cet homme, j'ai vu les rabbins qui étaient devant Jésus, avec leur orgueil, avec leur suffisance. Et j'ai dit, mais dis donc, lui, c'est que même s'il est pécheur, il est juif et il ira au ciel. Nous, les chrétiens, on a trois dieux. Paul, ils ne le connaissent pas. Il a dit clairement, Paul, non, c'est pas qui est Paul, hein. Paul, c'est pour vous, c'est pas pour nous. Donc vous pouvez imaginer. Des gens pour lesquels Jésus est venu mourir sur la croix. Mais quand on voit cette réaction, il le savait, mais il est allé jusqu'au bout. Donc, le découragement nous ouvre à deux attitudes. La première attitude, c'est la fuite. C'est demander la mort. C'est être découragé jusqu'à dire à Dieu, je préfère mourir que de vivre. Je préfère en aller, je préfère abandonner ma maison. Je me rappelle quand je travaillais encore dans les rues de Douala, je suis allé là-bas au port où ces gens dormaient, on m'a amené. Je me suis rendu compte que là dormaient des messieurs de 30, 40, 50 ans qui avaient abandonné leur maison. Et quand je discutais avec eux, il y en a un qui me dit, j'habite à Bonadi, bon, j'ai trois enfants et j'ai laissé ma femme. Je suis fatigué de les entendre m'appeler papa le matin, je veux le pain. À midi, je veux. Et il a querelle avec ma femme. L'autre a abandonné sa fille à 12. L'autre a abandonné ses enfants, je voulais dire, et sa famille. Partout, c'est des gens qui sont là, ils préfèrent dormir dans la rue, manger un bout de pain, discuter jusqu'au matin, prendre la drogue, parce qu'ils sont découragés d'être dans cette famille, dans cette maison. Ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout, porter leur croix, au-delà des douleurs, des souffrances, des clous, la côte percée, les injures, les moqueries, la couronne de croix, le Seigneur Jésus allait jusqu'au bout. Voilà les deux attitudes qui nous ouvrent au découragement, et nous nous choisissons un des côtés. Les plus faibles vont prendre la fuite et vont finir, s'ils sont mondains, dans la drogue, dans le sexe, dans l'alcool. Ils vont abandonner leur maison, abandonner leur femme, leur enfant et aller s'abriter, dormir dehors. Dans la maison de Dieu, les plus faibles vont quitter, aller d'église en église et après sombrer chez eux, sombrer dans l'alcool, repartir dans leur vomissure, commencer à vivre encore la mauvaise vie parce que ce qu'ils voulaient trouver dans l'église, ils ne l'ont pas trouvé. Ils croyaient trouver paix, joie et tout comme on leur avait dit. Mais ils se rendent compte que dans l'église, il n'y a plus de crotales, il n'y a plus de serpents, il n'y a plus de vipères, il n'y a plus de lions, il n'y a plus de crocodiles que quand ils étaient dans le monde. Et à la fin, ils sont obligés d'abandonner et de partir parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'énergie pour pouvoir continuer. Très peu ont porté leur croix. pour pouvoir aller jusqu'au bout, continuer jusqu'à la croix, comme le Seigneur Jésus. Comment aller jusqu'au bout? C'est la proposition que nous voulons vous faire ce soir, pour vous montrer comment vous pouvez aller jusqu'au bout. Premièrement, psaume 118, versets 8 et 9, il nous dit ceci.
Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand.
Nous avons mis nos regards sur les hommes. Nous avons mis les hommes, ont mis leur espérance sur les hommes. Ils ont mis leur espérance sur leur femme, sur leur mari, sur leur enfant. Mais je peux vous dire ce soir, ne le faites jamais, même si vous êtes enfant de Dieu marié. Aucune femme, aucun homme, aucun enfant n'apportera suffisamment de paix et de joie. D'ailleurs, la Bible dit dans Jérémie chapitre 17, verset 5.
Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel.
Si déjà, la Bible dit dans Jérémie 17, 5, que tu es déjà dans la malédiction si tu prends la chair pour appui, même ta propre chair. Si tu crois que par tes efforts, par ta force, par ton intelligence, tu es capable de pouvoir arriver là où tu vas arriver, et c'est là où tu seras découragé parce que tu n'arriveras à rien et tu n'aboutiras à rien. L'homme n'est pas capable de pouvoir produire dans sa propre vie ce dont il espère. Les grands hommes se sont empoisonnés. L'autre jour, j'étais en train de lire tous ces héros humains, tous ces grands chanteurs humains, comme Monroe, je ne sais pas moi, ces chanteurs Elvis que vous connaissez, Presley. Elvis Presley, tous ceux qui se sont suicidés. On a fait la liste de ces grandes personnalités de ce monde qui avaient de l'argent, qui s'étaient appuyés sur leur gloire, sur leur exploit, mais qui à la fin se sont suicidés. Et on se demande comment ils sont en arrivés à ce niveau. Parce qu'ils se sont appuyés sur la chair, ils se sont appuyés sur leur personne, ils se sont appuyés sur leur femme, ils se sont appuyés sur leur mari, croyant trouver en eux la capacité de trouver le bonheur. Non, aucun homme, aucune femme, aucun enfant ne pourra vous donner le bonheur escompté. Il faut s'appuyer sur le Seigneur Jésus. Malheur à celui qui s'appuie sur les frères dans l'église, sur les sœurs dans l'église. Si tu es un serviteur de Dieu et tu comptes sur l'église pour pouvoir vivre, par la dîme ou par autre chose, tu es totalement perdu. Et je dis, tu es totalement perdu. La Bible dit de ne jamais. Le découragement vient le plus souvent des attentes qu'on a mises sur les autres. Et le résultat, on attend d'un résultat positif. Mais ce qu'on voit en retour est totalement le contraire de ce qu'on aurait pensé, de ce à quoi on aurait pensé. La Bible dit que l'homme change. Le cœur de l'homme est mauvais. Et tu ne pourras jamais savoir quand l'homme changera. Et c'est pour ça que ta tristesse sera toujours plus grande. Donc, le premier moyen pour ne pas tomber dans le découragement, c'est de ne jamais mettre sa confiance dans l'homme. Et vivre dans cette parole du Seigneur, donner et se donner sans rien attendre en retour. Bien-aimé, on sera très heureux de vivre dans ce monde, à aimer des hommes sans s'attacher aux hommes. À faire du bien aux hommes par obéissance à Dieu sans s'attacher à ces personnes. Ça devient pour toi, bien-aimé, comme une sorte de devoir que tu reçois du Seigneur, et ce ne serait pas une obligation charnelle qui t'amène parce que tu n'attendras rien en retour. Payer l'école à son enfant par devoir sans espérer rien de lui te donnera de ne pas être choqué à la fin de la vie quand il jouira de ses biens avec ses enfants et t'abandonnera sur le chemin. J'ai une histoire que je ne sais pas si je voudrais raconter de ce monsieur qui est en Finlande. Parce qu'en Finlande, les enfants payent l'université. L'école primaire et secondaire est gratuite, mais à l'université, tu dois payer. Beaucoup d'enfants sont obligés de prendre des dettes à la banque qui paieront quand ils vont commencer à travailler. Mais ce père s'est battu. Il a tout fait, vendu tout ce qu'il avait. Et ça, c'est une histoire authentique. Pour payer l'université à son enfant. Et un jour, il se décide d'aller partir du village pour aller rendre visite à son enfant à l'université. Et quand cet homme est arrivé en ville, il était en train de tirer son chariot, son vieux chariot. Vous savez, c'était des chariots en bœufs à ce moment. Et puis, il était mal vêtu. Il voit son enfant dans la cour. Il appelle son enfant ne répond pas. Parce que son enfant aussi avait vu, mais son père était mal vêtu. Et quand il approche son enfant, il appelle son enfant, dit « Je ne te connais pas ». Parce qu'il ne pouvait pas tenir, avoir un père comme ça, au milieu de ses camarades. Et quand cet homme est rentré, il est mort. De choc. Et beaucoup sont morts comme ça, de choc, parce qu'ils avaient mis leur espoir sur des hommes. Et beaucoup continueront encore aujourd'hui à mourir de choc, parce qu'ils ont mis leur espoir sur les hommes, les chrétiens y compris. Surtout que les jeunes de cette génération sont pires que tout. Et même ceux qui ont mis leur espoir sur les hommes, quand je dis dans l'église, ils vont souffrir. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit de servir le Seigneur. 1 Pierre 5, verset 2 dit de servir, de paître le troupeau de l'Éternel volontairement, pas pour un gain sordide, sans rien attendre en retour. C'est par devoir, par engagement avec Dieu, prêt à porter sa croix, prêt à être cloué, prêt à recevoir toutes les difficultés, mais aller jusqu'au bout. La deuxième chose, donc, et quand tu sais donc volontairement, sans rien attendre en retour, tu te protèges bien aimé de l'ingratitude des hommes, tu te protèges du découragement. Élie avait mis son espoir, croyant que Israël comprendrait. Mais malheureusement, la deuxième chose qui t'amènera à ne pas te décourager est de ne pas t'attacher aux biens de la terre, mais aux choses d'en haut, de ne pas t'attacher aux choses de la terre. La Bible dit que là où est ton cœur, là où est ton trésor, là où sera aussi ton cœur, et vice-versa. La Bible nous dit que les trésors de la terre sont passibles de destruction, de disparition et de vol. Beaucoup de frères et de sœurs m'ont écrit pour me dire « Pasteur, je veux me marier ». J'ai demandé un jour à une sœur qui me disait « Il ne sait pas s'il faut qu'il épouse ce garçon ». Elle est médecin et le garçon, c'est vrai, a une maîtrise, mais ne travaille pas. Et je lui dis « c'est parce qu'il ne travaille pas, n'est-ce pas? Tu attends de déposer un garçon qui... » Elle me dit, oui, c'est vrai qu'elle a des attentes pour son mari. Et je lui dis, si aujourd'hui tu épouses un homme qui travaille, qui est directeur, qui a ses deux pieds, et qui, deux semaines après, sera aveugle parce qu'il a fait un accident et il est devenu infirme, qu'est-ce que tu vas faire? Et si aujourd'hui tu épouses un homme qui ne travaille pas et qui n'a rien et qui, dans 10 ans, sera millionnaire, qu'est-ce que tu sais? Et qui plus tard encore va mourir, qu'est-ce que tu sais? Nous mettons nos attentes sur les hommes, sur les choses de la terre. Et le mariage, c'est pour la terre, je vous le redis encore, bien-aimé. Le mariage, c'est pas pour le ciel. Quand tu mets ton espoir sur le mariage, c'est pour la terre. Quand tu es malade et que tu mets tout ton espoir sur la guérison, c'est pour la terre, c'est pas pour le ciel. Toutes ces choses, l'argent, les voitures, les enfants, pour lesquels nous souffrons, et pour lesquels nous sommes découragés, parce qu'on a prié, on a demandé à l'Éternel, nous ne recevons pas. C'est pour la jouissance de la terre, bien-aimée. C'est pas pour le ciel. Et quand nous passons de notre temps à regarder les choses qui créent notre jouissance sur la terre, c'est vrai, le Seigneur les a créées pour que nous puissions en jouir. Mais cela ne nous empêche pas de pouvoir jouir des choses spirituelles étant sur la terre et ne pas nous accrocher sur ces choses qui sont des trésors de la terre qui disparaissent. Et nous voyons donc des chrétiens qui se lancent aussi dans l'enrichissement, qui se lancent aussi dans les plaisirs de ce monde de mille manières, tout simplement parce que leurs regards sont fixés sur ces choses. Et après, quand ces choses commencent à se détruire, ton mari meurt, ou ta femme meurt, ou alors ton mari commence à te posé des problèmes dans le mariage, ou alors tes enfants sur lesquels tu avais posé ton espoir commencent à te créer des problèmes, ton travail est fini, ton argent a disparu, et toutes ces choses, le feu est venu à brûler ta maison, et tu es découragé, tu commences à demander où est Dieu, comme cette sœur qui disait Dieu m'a trompé, Dieu m'a trahi, parce qu'il a pris mon père, et tout. Des histoires qu'on raconte, des choses qu'on dit qui n'ont même pas de sens, tout simplement parce qu'on avait mis son espoir sur l'homme, l'argent, l'enfant et toutes ces choses. Bien-aimé, le jour où tu vas commencer à enlever ton cœur dans les choses de la terre, les posséder sans que tu ne t'attaches à ces choses, alors tu ne vas plus être découragé. Le détachement, bien-aimé, enlève tout désir de possession. Mais met seulement en nous le désir d'utilisation. Quand je suis détaché de ma voiture, je ne la possède plus, mais je l'utilise et je peux m'en débarrasser ou elle peut partir à n'importe quel moment sans que je ne crée un problème. Ça veut dire qu'un frère peut prendre ma voiture, l'utiliser et faire un accident, puisque je n'en ai pas fait une possession. Je ne vais pas trop me casser la tête, puisque je suis capable de marcher à pied. Si les gens s'aiment vraiment et que dans leur amour profond, ils ne se possèdent pas l'un à l'autre, mais marchent tout simplement dans le sens d'être utiles l'un à l'autre dans leur amour, se porter secours, se soutenir, sans dire que c'est mon frère, c'est mon mari, c'est ma femme, dans le sens vraiment de possession, alors on ne sera jamais découragé. Ça veut dire que si aujourd'hui ton mari ne te donne plus de quoi manger et que tu sortes, que tu puisses trouver une petite nourriture à cause d'un petit travail que tu as trouvé, quand tu vas rentrer, tu vas lui dire « Chérie, viens manger parce que je m'étais engagé de pouvoir partager mon repas avec toi. » La dernière chose pour sortir du découragement, pour ne pas tomber dans le découragement, c'est de se détacher de l'œuvre de Jésus et de Dieu. Frère, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, ce n'est pas notre œuvre. Luc 17, 10 nous dit ceci. Si nous lisons dans le livre de Luc au chapitre 17, le verset 10, le Seigneur nous invite à nous détacher de son œuvre, à nous séparer totalement de son œuvre, parce que c'est son œuvre.
Luc 17, 10, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire.
J'ai rencontré un frère aujourd'hui qui disait, j'ai prié pour cet homme. Et il a été guéri de sa maladie. Et il n'a même pas pu me dire merci. Mais frère, attends. C'est l'œuvre de Jésus qui s'est pas tournée. Après avoir prié pour cet homme, dit, je suis serviteur inutile. Je n'ai fait que ce que je devais faire, prier, et le gars est guéri. C'est à Dieu que revient la gloire. Après avoir fini de prêcher l'évangile, d'édifier, de fortifier l'église, tu vas commencer à dire, ils ne me donnent pas la dîme, ils ne me font pas ceci, et puis ils me rendent en retour que, après que j'ai eu pris soin d'eux, je les ai aidés, j'ai tout fait ce qu'il faut faire pour les soutenir, je ne reçois que blessures, douleurs et souffrances. Attends, Jésus dit, tu n'es que serviteur inutile, tu n'as fait que ce que tu devais faire. Et c'est donc contre moi qu'ils en ont, parce que c'est à moi qu'ils ne disent pas merci, c'est à moi qu'ils ne font pas ceci, parce que c'est moi qui ai fait cette œuvre, c'est moi qui ai changé leur vie, c'est moi qui ai guéri leur maladie, c'est moi qui ai fait tout ce que tu dis que tu as fait. Alors tu n'es que serviteur inutile. Le jour où les chrétiens, les pasteurs, apprendront à savoir qu'ils ne sont que des serviteurs inutiles, qui n'accomplissent que l'œuvre du maître, et qui doivent se détacher de cette œuvre, parce que ce n'est pas leur œuvre, alors les choses marcheront. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui luttent pour Dieu, alors que c'est Dieu qui devait lutter pour nous. Et je me pose la question, on lutte pour une œuvre, l'œuvre de Dieu. Mais qui doit lutter pour qui? C'est Dieu qui doit lutter pour son œuvre, ce n'est pas nous qui devons lutter pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, on veut faire l'œuvre de Dieu. On dit, j'ai une vision pour l'œuvre de Dieu. Attendons. C'est Dieu qui travaille au travers de nous. Ce n'est pas nous qui travaillons pour lui. C'est Dieu qui agit au travers de nous. Ce n'est pas nous qui travaillons pour lui. Et après, quand on prend possession de l'œuvre de Dieu, on commence à être choqué, on commence à être déçu. Le tel frère m'a déçu. Comme on dit souvent, j'ai rencontré un pasteur qui dit, j'ai invité tel frère dans mon église et quand il est venu, il a pris mes âmes. Attention. Il a pris mes âmes. Mais la Bible dit quoi? Toutes les âmes appartiennent au Seigneur. Bien-aimés, c'est cette proposition que nous voulons vous faire ce soir. Et C'est vrai, nous aurons pu nous étendre encore, mais nous croyons que le Seigneur vous a béni par ce petit partage en vous invitant ce soir. Vous donner des moyens pour ne pas tomber dans le découragement, à pouvoir marcher avec le Seigneur. Que ça vous bénisse.
Au rythme de Dieu, la communauté CBC Makepe Israël, sous la direction de son pasteur Emmanuel Koum, vous convie tous les mardis entre 20h30 et 21h30 à une réflexion sur la vie chrétienne aujourd'hui. Au rythme de Dieu, c'est les messages, prédications, enseignements, débats, conférences, interactivités, le tout arrosé par de la très bonne musique. Notez le rendez-vous mardi 20h30, 21h30. Venez et ensemble, marchons à la suite de Jésus.
Qu'est-ce que je vais faire ?
Qu'est-ce que je vais faire ?
De ma pauvre vie ?
De ma pauvre vie !
Qu'est-ce que je vais faire de ma pauvre vie ?
Nous bénissons le Seigneur, chers amis auditeurs. Nous voulons vous rassurer que nous sommes toujours sur le plateau. C'est toujours, ça fait toujours partie des 60 minutes pour cette émission au rythme de Dieu. C'est inhabituel ce que vous venez de suivre. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous remercions le pasteur pour ses mots d'exhortation et d'interpellation également. Nous espérons que vous avez été richement bénis et nous disons merci à tous ceux qui réagissent d'une manière ou d'une autre, comme par ce SMS dont le contenu ou la teneur est le suivant. Bonsoir à vous. Est-ce à dire qu'on ne doit pas se lamenter ni éprouver de douleur si on perd quelqu'un ou quelque chose de cher?
Oui, mais bon, est-ce que si ça te pousse au découragement à dire, bon, mais j'ai perdu mon père, qu'est-ce que je peux encore faire? Il vaut mieux que je me donne la mort. Là, c'est dangereux. Mais bon, Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. Mais en ouvrant, par ses larmes, aussi à deux choses. Savoir que la résurrection existe. Si la chair est touchée, il y a la joie de la résurrection de Lazare qui a effacé immédiatement ces larmes de Jésus. Mais il faut vraiment pleurer pour celui qui va en enfer. Parce que lui, il va vraiment aller souffrir. Donc maintenant, le chrétien, si je peux le dire, a devant lui deux réalités. Si c'est une personne qui a vraiment cru, c'est vrai qu'on va verser une larme à cause de la séparation. L'attachement qu'il y avait. Mais on est rempli d'une joie profonde parce qu'on sait où va la personne.
Nous dévance.
Elle nous dévance. On va la retrouver comme David a fait dans 2 Samuel quand son fils est mort. Il jeûnait quand il était malade. Et quand il est mort, il s'est plutôt mis à manger. Et après, donc, il y a d'autres. Si quelqu'un va en enfer, vraiment, il faut gémir pour lui. Mais maintenant, donc, si ça te pousse au découragement par rapport à ta vie, par rapport à ton avenir, tu te dis tu n'as plus d'espérance, tu ne sais plus où mettre ton pied et tout, alors tu n'avais pas cru en Jésus-Christ. Et c'est ça qui est très dangereux,
cette lamentation. On peut prendre l'exemple de Job également, qui dans sa marche, tout d'abord a perdu ses biens. Ensuite, le diable a dit... c'est pas parce qu'il a perdu ses biens, mais touche un peu à ses enfants et tu verras comment il va te maudire. Ça a été le cas, mais la réaction de Job a été toujours différente. Comme pour dire que c'est pas que Job n'avait pas de l'attachement pour ses enfants encore moins pour ses biens, mais il était attaché plutôt à celui qui a pourvu aux biens plutôt qu'à ses biens. à celui également qui a donné les enfants plutôt qu'à ses enfants. Là,
sa vie ne dépend pas de ces choses-là.
Effectivement.
Il a une vie qui est autre. Mm-hmm. Sa vie dépend du Seigneur et non de tout ce qu'il a comme possession.
Voilà.
Notre vie ne dépend pas de notre mariage, notre vie ne dépend pas de notre travail, ça ne dépend pas de nos enfants, ça ne dépend de rien que du Seigneur.
Et quand on dépend nos vies de ces choses, alors ça on tombe dans le découragement.
Voilà.
C'est pour ça que Job pouvait rester dans ses ulcères et continuer à bénir le Seigneur parce que sa vie vraiment ne dépendait pas de ces choses.
Parce que lorsque tu arrives à la situation, parce que le cas de Job, c'est vraiment une situation extrême, parce que après avoir été dépouillé de tout ce dont il a été dépouillé, et même dans la maladie, même la dernière personne qui doit lui donner l'espoir de vivre lui dit maudit Dieu et meurt. Fini avec ça. Mais il a trouvé au fond de lui-même assez de force pour dire c'est le Seigneur qui est ma vie. Alors toutes les autres choses que j'avais, le Seigneur a donné la réplique, la gloire lui soit rendue.
Donc on ne peut pas se lamenter.
Oui, oui. Mais il faut cependant dire, pasteur, que lorsqu'on perd quelqu'un de cher, c'est thérapeutique de pleurer.
Oui, oui, oui. Non, pleurer est thérapeutique, mais lui, il parle plutôt de se lamenter.
Ne se lamenter ni éprouver de douleur si on perd quelqu'un ou quelque chose de cher.
Automatiquement, on éprouve une douleur. Il y a une douleur qui est là. Et il ne faut même pas la refouler. Il y a des gens qui disent non, je refuse d'éprouver la douleur. Il faut l'exprimer.
Ouais.
Il faut véritablement l'exprimer. Mais pas l'exprimer comme les mondains qui n'ont plus d'espoir.
Parce que
pour un enfant de Dieu, il sait qu'il y a un espoir pour lui. Mais pour la personne qui est décédée, comme disait Pasteur comme tout à l'heure, quand cette personne n'a pas le salut, c'est vraiment terrible. Et ces pleurs que nous versons doivent plutôt nous pousser à travailler davantage pour que d'autres personnes n'aillent pas en enfer comme la personne qui vient de décéder.
Et puis je dis, nous l'avons dit, souvent j'ai entendu des frères prononcer des paroles parce qu'ils ont perdu leur père ou leur frère, ou quelque chose, des paroles contre Dieu.
Ouais.
Qu'on peut dire, qu'on peut vouloir mettre dans la douleur, mais qu'il ne fallait quand même pas sortir de sa bouche. Dieu m'a trompé,
Dieu m'a trahi,
Dieu ne m'a pas exaucé.
Pourquoi Dieu m'a fait ça?
C'est-à-dire, mettre Dieu sur le banc d'accusation, parce que tu as perdu quelqu'un, là, c'est souvent très grave. Et on ne peut pas se rendre compte des conséquences que l'on peut avoir après.
Nous bénissons le Seigneur, amis auditeurs, très rapidement ce dernier SMS parce que nous courons après le temps. Bonsoir à vous et merci au pasteur Koum. Je glorifie le Seigneur pour le thème qu'il a mis dans la bouche de son serviteur, si possible. Le téléphone du pasteur, Mademoiselle Mariusa, merci. C'est donc la fin de cette émission pour aujourd'hui, chers amis auditeurs. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui avez été là, fidèles nombreux. Le numéro du pasteur, c'est le 94 35 44 54. Et
70 78 77.
Voilà. Donc 35 44 54 et 70 78 77, ou alors
koum01@yahoo.com pour ceux qui visitent internet.
Ou encore le
33 10 21 61. Donc pour résumer, 33 10 21 61 94 35 44 54 70 78
87
koum01@yahoo.com.
Nous bénissons le Seigneur qui vous a comblé ce soir à la prise de son, Emmanuel Sanfax sur ce plateau. Nouengatu, le pasteur Emmanuel Koum et moi Guy-Augustin Kentop, mardi prochain sera notre jour par la grâce de Dieu. Soyez bénis et que Dieu vous accompagne. Ciao.